l'économie à sa crise, ce qui est le cas évidemment actuellement. Et puis Marx nous dit, bon, les crises vont se succéder. Après chaque crise, ça redémarre, donc on reconstruit des machines, des usines, des bâtiments, des commerces. Mais il nous dit, voilà, l'accumulation de richesses donc, est toujours là, mais sauf qu'à chaque fois, il y aura une crise qui sera de plus en plus importante jusqu'à ce que le système vraiment se détruise et que là, bon, Marx, en fait, n'est pas vraiment un penseur du communisme. Il ne nous a pas vraiment dit ce qu'il pensait de ce qui se passerait à ce moment-là, mais disons qu'il avait, évidemment, il a pensé la destruction du capitalisme.
Qui ne s'est pas encore réalisé.
Qui ne s'est pas encore réalisé.
Ou alors, dites-moi, je ne suis pas au courant.
Je ne sais pas, peut-être, enfin, on verra.
Peut-être en sortant de ce studio.
Mais il y a une critique de Marx du capitalisme, c'est qu'il dit que c'est un très mauvais système économique. C'est-à-dire que c'est hyper inefficace. Et évidemment, la première inefficacité du capitalisme, c'est précisément le chômage. C'est-à-dire que le fait... Alors là, je parle vraiment en économiste, hein, donc je vous prie de m'excuser, mais le fait qu'on n'utilise pas la ressource humaine qui est disponible, c'est un gaspillage, enfin, on ne peut pas faire pire. Dans le capitalisme, ce n'est pas le client qui est le roi. C'est évidemment les entreprises qui vont en permanence nous bombarder de messages publicitaires pour nous faire acheter des trucs parfaitement inutiles, ce qui va conduire à un gaspillage total des ressources naturelles, à une surconsommation, à un éclatement des modes de vie, etc. Et donc, en fait, les ressources humaines, matérielles, naturelles dont nous disposons sont très, très mal utilisées par le capitalisme, alors que la première défense, la première dans tous les cours d'économie ou dans les discours des hommes politiques, la première défense de l'économie de marché, c'est toujours l'efficacité. On dit, avec la concurrence, les entreprises sont obligées d'essayer de faire au mieux, hein, de baisser les coûts, de faire gaffe de ne pas gaspiller, alors que l'État, lui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le grand gaspilleur avec, soi-disant, les fonctionnaires qui dorment toute la journée dans leur bureau, etc. Quand on pense État, on pense assez vite gaspillage. Quand on pense marché, non. Alors que là, le gaspillage du marché, tous les logements vides qui ont été construits en Espagne, tous les projets faramineux et toutes les millions de vies détruites par la crise financière actuelle, comme
oui, c'est d'abord un gâchis de ressources humaines. On a transformé l'humanité en autant de personnes superflues, qui sont des charges, des encombrants.
Donc c'est vraiment le problème économique, mais là aujourd'hui, évidemment, dans toute sa splendeur, si on peut dire, c'est qu'on a d'un côté des besoins fondamentaux qui sont non satisfaits. On sait qu'en France, on a des centaines de milliers de personnes, si ce n'est pas plus, qui n'arrivent même pas à se nourrir correctement. Les problèmes de logement qui sont absolument considérables. De plus en plus de Français qui renoncent à se soigner. Donc des besoins vraiment fondamentaux, vitaux, qui ne sont plus satisfaits. Et de l'autre côté, des millions de gens à qui, en fait, on refuse le droit de travailler. Je veux dire, je ne peux pas croire au cynisme total des ministres, de leurs conseillers, des experts, etc. Je veux dire, ces gens-là ne sont pas si différents de nous que ça. Et comment est-ce qu'ils arrivent à ne pas être plus indignés que ça de cette situation qui est formidablement... transparente, évidente. Les problèmes sont connus tous, ils sont vieux, enfin... Et pourtant, ça n'évolue pas, ou alors ça s'aggrave même.
L'Express.fr, 12 juillet 2012.
Le pouvoir politique peut-il empêcher les plans sociaux? Eh bien, non. En revanche, le pouvoir politique peut très bien empêcher...
Christophe Barbier.
...qu'une entreprise se retrouve dans la situation d'avoir à opérer un plan social. Pas tous les plans sociaux, pas toutes les entreprises, mais le pouvoir politique a une marge de manœuvre. Commençons par la solution la pire, celle qu'il ne faudra plus jamais mettre en œuvre. La nationalisation, transformer en fonctionnaires les ouvriers d'une usine, c'est leur offrir la garantie de l'emploi, c'est se vacciner contre les plans sociaux. On sait ce que ça veut dire à terme, ça s'appelle le communisme. Le collectivisme, c'est l'horreur.
Alors, on va prendre le quatrième auteur et penseur de l'économie que vous évoquez dans ce bouquin, avec une certaine tendresse, qui est Karl Polanyi. Que vous pouvez nous situer, Karl Polanyi, qui est né en 1886 et mort en 1964.
Oui, donc il n'y a pas si longtemps. C'est le plus jeune des quatre.
Bande des quatre.
C'est un historien hongrois qui a connu donc les affres de l'entre-deux-guerres et que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Angleterre. C'est un auteur que j'ai découvert bien après les autres parce que c'est un auteur sur lequel je n'ai pas eu de cours. Parce que ce n'est pas vraiment un économiste, Polanyi. C'est-à-dire que comme c'est un excellent économiste, il est considéré comme n'étant pas vraiment un économiste. C'est un historien de formation et donc a beaucoup travaillé lui aussi toujours sur cette même période de la révolution industrielle. Et en fait, la lecture de Polanyi, en un sens, est proche de celle de Marx. C'est-à-dire qu'il nous dit, bon, les gens sont exploités, etc. Mais Polanyi, en fait, a anticipé les critiques actuelles sur les questions environnementales et sociales. Il insiste sur le fait que la personne, la communauté, sont détruites par la révolution industrielle. On boucle un peu la boucle. En fait, c'est conformément, finalement, à l'idéal du marché, de l'individu libre. Polanyi nous dit, mais non, En fait, ça n'existe pas, des individus libres,